Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Emmanuel Macron se pose en champion de la lutte contre le réchauffement climatique. Le président annonce la création de la One Planet Coalition à l'issue du sommet consacré au financement de cette lutte. Le reportage de Véronique Rebérotte dans un instant. Quel avenir pour le G5 Sahel, la coalition militaire africaine destinée à lutter contre les groupes djihadistes dans la zone sahélienne? Le soutien de la France est indispensable, c'est ce que nous expliquera notre invité, le général Jean-Bernard Pinatel. Un nouveau Premier ministre pour la Pologne, Mateusz Morawiecki, mais une même ligne politique, nationaliste et conservatrice. Nous verrons cela avec Éric Biegala. Les journalistes de France Télévisions votent à 84% une motion de défiance contre leur PDG Delphine Ernotte. Au cœur du conflit, les coupes budgétaires dans l'information. Les explications à venir d'Abdellah Kalidrissi. 2 ans après l'accord de Paris visant à limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète, la France accueillait aujourd'hui un nouveau sommet sur le climat, le One Planet Summit, avec un objectif concret, trouver de nouvelles sources de financement pour gagner cette bataille du climat. Et les engagements ont été nombreux tout au long de la journée. Les stars et les grandes entreprises ont rivalisé de promesses sonnantes et trébuchantes sous le patronage du maître de cérémonie Emmanuel Macron. Le reportage de Véronique Rebérotte.
Assommé un peu too much, puisque l'anglais était de mise au One Planet Summit côté mise en scène. Beaucoup de stars, Marion Cotillard, Arnold Schwarzenegger, Sean Penn, ils ont dialogué avec des collégiens de la région parisienne sur le mode « chacun peut faire quelque chose pour le climat ». Un rien n'est perdu, contrastant avec le « on est en train de perdre la bataille du climat » d'Emmanuel Macron, mais c'était lors de sa première intervention. Puis, tout s'est arrangé avec l'annonce de plusieurs initiatives concrètes. La palme revient à la Banque mondiale, qui a fait part de son intention d'arrêter de financer après 2017. L'exploration et l'exploitation à travers le monde de projets pétroliers et gaziers. Un groupe de 200 grands investisseurs a de son côté promis de mettre la pression sur une centaine d'entreprises parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre. Puis d'autres engagements aussi autour de partenariats publics-privés, comme cette coalition autour de Sean Penn pour reconstruire les Caraïbes à hauteur de 3 milliards de dollars, dont l'île de Saint-Martin. Bill Gates, le milliardaire, plusieurs pays ont promis, eux, 650 millions de dollars pour aider les paysans africains à s'adapter au réchauffement climatique. Bill Gates.
On doit vraiment aider ces pauvres fermiers. Notre engagement, c'est d'accroître leur productivité, de leur fournir des semences qui résistent aux inondations et à la chaleur.
Semences OGM ou pas, Bill Gates ne l'a pas précisé. En conclusion, Emmanuel Macron a annoncé la One Planet Coalition avec la création d'un site internet où seront recensés et suivis toutes les promesses.
Véronique Rebérotte, merci. Le président français qui propose que ce One Planet Summit se répète chaque année en France ou ailleurs, et cela pour vérifier le respect des engagements pris. Après le One Planet Summit à Boulogne, Emmanuel Macron sera demain à La Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines. Le chef de l'État y présidera une réunion de soutien au G5 Sahel. Le G5 Sahel, une alliance militaire composée de 5 pays africains, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, une force de 5000 hommes destinée à lutter contre les groupes djihadistes dans la zone sahélienne. Il s'agit là d'un objectif pour l'été prochain. En attendant, le G5 Sahel a besoin de l'aide de la France. On en parle avec l'invité de ce journal, le général Jean-Bernard Pinatel, spécialiste des questions géopolitiques et géostratégiques. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Bernard Pinatel, quel est finalement le but de cette réunion de soutien au G5 Sahel?
Alors clairement, aujourd'hui, ce que veut faire le président Macron, d'après moi, compte tenu du fait qu'il y a les 5 pays, l'Union africaine et l'Union européenne, et qu'il n'y a pas invité le Nigeria et l'Algérie, c'est dans un premier temps de faire un point de situation effectivement sur le terrain, de voir les besoins et d'essayer de partager le fardeau avec notamment l'Union européenne que la France porte pratiquement à bout de bras avec 4000 soldats. Donc ce premier objectif est effectivement beaucoup plus militaire, voire logistique et financier, qu'un objectif de régler ce problème, et on en est bien entendu très loin.
Alors, d'un point de vue militaire, où en est-on dans la constitution de ce fameux G5 Sahel?
Bien, le G5 fonctionne, mais vous savez bien que dans ces 5 pays, il y en a un seul qui est vraiment un État guerrier qui a une armée, c'est le Tchad. Le Niger est un pays en déshérence, le Mali l'armée est en train d'être reconstituée, mais face à des gens qui sont des gens du Nord, l'armée n'a jamais fait des étincelles. La Mauritanie est un tout petit pays, hein, de 4 millions d'habitants, et le Burkina est en arrière de la main, et donc cette force, si vous voulez, interafricaine, est beaucoup plus une force qui permet de défendre des points sensibles, d'occuper des villes, mais d'assurer une sécurité dans les villes, mais elle a, en dehors des Tchadiens, une très petite capacité opérationnelle pour courir après les djihadistes.
Ça signifie que cette force ne peut pas fonctionner sans l'appui militaire de la France ?
C'est évident que cette force ne peut pas fonctionner sans l'appui, je ne dirais pas uniquement de la France, mais de militaires occidentaux. Ces cinq pays représentent 3 800 000 km², c'est-à-dire 7 fois la superficie de la France. Donc on est face à des élongations considérables et donc il faut des moyens aéromobiles et de transport, et notamment aéromobiles que ces pays ne possèdent pas. Donc si on ne veut pas effectivement mettre trop de monde au sol, il faut tenir les principales villes, effectivement, c'est ce qui est fait essentiellement par cette force, et avoir une force d'intervention rapide, qui dispose de moyens aéromobiles, qui dispose surtout d'excellents renseignements, que ce soit satellites, électroniques, etc., et qui permet d'aller porter des coups à ces djihadistes.
Jean-Bernard Pinatel, les djihadistes multiplient les attaques dans la zone sahélienne. 4 soldats américains sont morts au Niger début octobre. De quels djihadistes parle-t-on ? Al-Qaïda, l'État islamique ?
On parle de deux. Si on peut dire, de deux origines. Vous avez effectivement tous ceux qui tiennent, les djihadistes qui tiennent la bande sahélienne et qui se ravitaillent, si on peut dire, grosso modo, à partir de la Libye et qui sont ce que l'on connaît, ACMI, un certain nombre de bandes. Et vous avez Boko Haram, effectivement, qui est dans la zone du lac Tchad, en tout cas pour la région qui nous intéresse, qui couvre le Niger, le Cameroun, le Tchad. Et je vous rappelle quand même que cette région du lac Tchad, il y a environ 50 millions d'habitants qui y habitent. Hein. C'est la région, une des régions les plus pauvres du monde, parce que ce lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Et donc, ces gens vivent difficilement. Et donc, quand vous avez des gens qui vous proposent une petite solde pour vous engager avec eux, eh bien, Boko Haram recrute beaucoup dans cette région du lac Tchad.
Et l'État islamique Daesh est présent ?
Alors oui, Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique, mais c'est beaucoup plus, si on peut dire, la partie religieuse, en tout cas l'allégeance religieuse qui est importante, parce que quand vous avez affaire à des Touaregs ou des Toubous, ils sont islamisés, mais ils n'ont rien à voir avec les djihadistes que l'on connaît en Syrie ou en Irak. Parce que la culture est différente.
Combien sont ces djihadistes ? Est-ce qu'il existe une estimation ?
On peut penser, là encore, que dispersés sur l'ensemble de la zone, on doit avoir de l'ordre de 2000 à 3000 hommes. Mais ce qu'il y a d'essentiel, c'est que Barkhane a obtenu quand même quelque chose, c'est qu'ils ne peuvent plus se dépasser en grande bande et à tenir des zones. Rappelez-vous, au moment où on est intervenu, ils tenaient quand même tout le Nord Mali. Donc maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement des actions commando, se réfugier dans des zones refuges et mener des petites actions commando ou terroristes. C'est-à-dire qu'on a quand même abaissé le niveau de la menace d'une façon très importante. Mais on n'arrive pas à stabiliser cette situation avec à la fois les effectifs actuels et la participation telle qu'elle est des pays du G5.
Jean-Bernard Pinatel, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En Pologne, les têtes changent, mais la ligne politique reste la même, catholique et nationaliste. Le nouveau Premier ministre Mateusz Morawiecki a prononcé aujourd'hui son discours de politique générale devant le Parlement et il devrait obtenir sans difficulté la confiance de la majorité conservatrice. Mateusz Morawiecki a succédé à Beata Szydło, remerciée par le parti au pouvoir. Hormis ce changement majeur, tous les ministres sortants ont retrouvé leur portefeuille. Un maître mot pour ce gouvernement polonais, la continuité, Eric Bigala.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque Mateusz Morawiecki, tout nouveau Premier ministre qu'il soit, conservera le portefeuille de ministre des Finances qu'il détenait déjà dans le précédent gouvernement. Quant à celle à qui il succède, Beata Szydło, elle devient simple vice-premier ministre sans portefeuille. La véritable raison de ce remaniement, qui n'en est pas vraiment un, semble être surtout que Mateusz Morawiecki a davantage la confiance du véritable homme fort du pays, Jarosław Kaczyński, le tout-puissant patron du parti Droit et Justice, le PiS, qui lui, prudemment, n'occupe aucune fonction exécutive. Selon la porte-parole du parti, la véritable mission de Morawiecki, ce sera de pouvoir présenter un visage plus honorable aux partenaires européens. Germanophone, anglophone et ancien banquier, le nouveau Premier ministre devrait pouvoir prendre langue plus facilement avec ses homologues, lesquels multiplient depuis quelques mois les signes de mauvaise humeur vis-à-vis d'un gouvernement polonais de plus en plus ouvertement tenté par l'illibéralisme façon Viktor Orban en Hongrie. Mais sur le fond de la politique qu'entend suivre le nouveau cabinet Morawiecki, il ne semble pas y avoir d'inflexion particulière. Au moment même où était annoncé ce remaniement, en fin de semaine dernière, le Parlement, dominé par le PiS, adoptait deux réformes judiciaires faisant passer peu ou prou la Cour suprême du pays et le Conseil supérieur de la magistrature sous la coupe soit de l'exécutif, soit du Parlement. Hier, c'était une chaîne de télévision privée, TVN24, qui écopait d'une amende de 350 000 euros pour sa couverture des manifestations antigouvernementales de l'année dernière, et ce parce que la chaîne aurait omis de signaler que ces manifestations étaient interdites. Quant à Mateusz Morawiecki, il déclarait sur une autre chaîne de télévision, proche des milieux ultra-catholiques, celle-là, que son ambition en tant que chef de gouvernement, c'était, je le cite, de re-christianiser l'Europe. Pas sûr que, même énoncé dans un anglais ou un allemand parfait, ce type de programme fasse florès à Bruxelles, à Paris ou à Berlin.
C'est un revers de taille pour Delphine Ernotte. À 84%, les journalistes de France Télévisions ont voté ce soir une motion de défiance contre la PDG du groupe. Ils ne lui font plus confiance pour, je cite, préserver la qualité et les moyens de l'information à France Télévisions. Résultat d'autant plus significatif que la participation a été forte, 69% de votants. Pour Delphine Ernotte, ce vote tombe d'autant plus mal que le gouvernement impose des économies budgétaires à l'ensemble de l'audiovisuel public. Abdellah Kalidrissi.
Delphine Ernotte pensait pouvoir entamer les difficiles semaines à venir contre Emmanuel Macron et son gouvernement avec le soutien des salariés. C'est raté, en tout cas elle n'a pas celui de ses journalistes. Malgré un courrier envoyé la veille du vote, disant qu'elle prenait très au sérieux la mise aux voix de cette motion et rappelant son attachement à l'indépendance et à la qualité de l'information. Son dernier faux pas, c'est d'avoir voulu sabrer dans les effectifs de deux magazines emblématiques, Envoyé spécial et Complément d'enquête, pour réaliser une partie des 50 millions d'euros d'économie demandée par le gouvernement. Mais dans les rédactions, la colère est plus ancienne. Les journalistes de France 2, France 3 et du Web ont déjà voté une motion de défiance en avril 2016 contre le directeur de l'information de l'époque, Michel Field. Un an plus tard, en mai 2017, celui-ci démissionnait à la veille d'une nouvelle motion qui le visait de nouveau lui, mais aussi Delphine Ernotte. Les sociétés des journalistes avaient alors abandonné l'idée d'une motion contre la PDG, estimant que la démission du directeur de l'information représentait une sorte de main tendue de la part de Delphine Ernotte. Cette fois, le vote a bien eu lieu. Certes, il n'est que symbolique, mais le message adressé à la présidente est clair et son image se retrouve fragilisée. En plus de relations tendues avec le gouvernement et l'Élysée, et désormais avec les journalistes, Delphine Ernotte doit faire face dès ce mercredi à une grève de l'ensemble des salariés pour, je cite, « défendre l'honneur de l'audiovisuel public ».
Abdellah Kalidrissi, merci. Dans l'actualité politique, Laurent Wauquiez a vécu aujourd'hui sa première épreuve de nouveau président des Républicains. Il a dû composer avec le départ de l'un de ses barons régionaux, Xavier Bertrand. Départ pas acceptable selon les termes de Laurent Wauquiez. Le nouveau patron de LR était à l'Assemblée aujourd'hui pour rencontrer les députés de son groupe parlementaire. Ludovic Piétenu, Laurent Wauquiez leur a promis de construire ensemble le monde de demain.
Oui, si Laurent Wauquiez dit tout cela, c'est parce qu'il se s'est attendu au tournant, censé respecter son engagement de campagne, être le rassembleur des différentes sensibilités de son parti, mais pas prêt non plus à composer avec tous les cadres des Républicains. Que disait-il hier soir sur TF1 ? Je tends la main à tous ceux qui, de bonne foi, veulent travailler, rassembler, d'accord, mais sans trop s'embarrasser. Il faut une nouvelle génération, de nouveaux visages. Les calculs politiques nous tuent, résume ce midi le même Laurent Wauquiez devant le groupe des députés LR à l'Assemblée. semblé qu'il s'est empressé d'aller voir parce que ce sont ceux qui ont réussi à conserver leur siège au mois de juin, malgré le renouvellement et le séisme provoqué par l'élection d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a parmi ces parlementaires de jeunes pousses sur lesquelles il compte bien s'appuyer pour relancer son parti. Des élus autour de 30 ans qui ont parfois conquis des territoires de gauche. « Je ne vais pas regarder dans le rétroviseur », disait encore hier soir Laurent Wauquiez, allusion à Alain Juppé, 72 ans, qui tweetait hier soir « À lui de jouer maintenant avec sa génération », ou encore Jean-Pierre Raffarin, assez sceptique, qui place le nouveau président LR sous observation, Raffarin, 69 ans, ou Dominique Bussereau, qui se laisse encore la période des fêtes, dit-il, pour réfléchir. Dominique Bussereau, 65 ans. Voilà, ce sont peut-être les plus gênés qui n'ont qu'à s'en aller, en tout cas peut-être les plus âgés.
Ludovic Piétenu, merci. Un mot du temps demain, très agité sur presque tout le pays. Pluie en plaine et neige en montagne seront au programme de la Nouvelle-Aquitaine aux frontières du Nord en passant par le Massif central. Le soleil devrait résister sur le pourtour méditerranéen. Les températures maximales sont en hausse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.